France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
En presque 15 ans, mais oui, déjà, Nathalie Stutzmann s'est mue. Non, elle n'a pas mué, elle s'est mue. Elle était l'une des grandes contraltos. Elle est désormais aussi une grande chef d'orchestre, tout récemment nommée chef invitée principale à l'Orchestre de Philadelphie. Et puis, toujours en parallèle, chef titulaire de l'Orchestre symphonique de Kristiansand en Norvège. Bonjour, Nathalie Stutzmann.
Bonjour, Jean-Baptiste.
C'est à la fois comme chanteuse et comme chef, les deux casquettes, même si le mot est pas très joli, que vous sortez un nouveau disque avec l'ensemble Orfeo 55, qui depuis a mis fin à ses activités. Contralto, ça vient de paraître chez Erato, on ne peut pas le rater. La pochette est toute rouge, somptueux album de Vivaldi à Handel, en passant par Porpora et quelques autres, comme Lotti ou Bononcini. Nathalie Stutzmann, ma première question va peut-être vous paraître abrupte, mais au regard de ses activités de direction grandissante, est-ce que vous allez continuer à chanter? Est-ce que vous continuerez à enregistrer? Ou est-ce que ce disque pourra être le dernier de Nathalie Stutzmann, chanteuse?
Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, continuer à chanter, oui. Pas souvent, certes, parce que ses activités de chef... Je suis désormais chef d'orchestre et chanteuse de temps en temps. La comparaison s'est inversée, mais disons que mon instrument est toujours en forme, donc c'est vrai que j'ai envie parfois d'une manière assez égoïste d'ailleurs, parce que c'est vraiment un plaisir personnel de continuer à chanter, de pouvoir parfois juste utiliser mon instrument, l'instrument que j'ai travaillé pendant tant d'années pour le perfectionner, pour le peaufiner, et c'est une détente aujourd'hui de chanter, parce que voilà, j'ai pas besoin de transmettre quelque chose ou d'expliquer comment j'imagine une phrase, mais je le fais moi-même, et ça c'est très relaxant parfois quand on a toujours ce besoin de devoir transmettre à l'orchestre. Et puis je chante beaucoup en répétition d'orchestre aussi, c'est très pratique pour pouvoir répéter et travailler avec l'orchestre, de chanter juste une phrase pour expliquer ce qu'on a en tête au lieu d'utiliser les mots en fait.
Ça étonne les musiciens, les instrumentistes, quand vous chantez leur phrase, la phrase du basson, la phrase du trombone?
En général, ils sont contents. Ils sont contents parce que on gagne beaucoup de temps. Vous savez, les musiciens d'orchestre n'aiment pas trop les longs discours, et c'est vrai qu'une phrase chantée, ça évite de longs discours.
Elle chante et elle dirige Orfeo 55. Nathalie Stutzmann chante et dirige ici Porpora.
Ingrato, ingrato.
Corpora et cet air extrait de Statira. J'ai honte de le prononcer devant vous. Vous pouvez me corriger. Mira d'entrambi il siglio, quelque chose comme ça.
Il ciglio.
Il ciglio, oui, oui. Mais vous me donnez des cours d'italien. C'était Orfeo 55. Nathalie Stutzmann qui dirige et qui chante sur ce disque paru chez Erato. Alors, on a fait un petit trucage. On a pris la fin de cet air qui est une scène de ménage.
Oui, bah, ingrato en général, c'est toujours le premier mot qui vient à ces dames.
Et là, avec encore plus de théâtre à la reprise, oui, le trucage, c'est qu'on a pris la fin, donc la reprise, c'est un inédit, c'est la première fois que c'est enregistré. Il y a une émotion particulière quand on enregistre pour la première fois un air qui a dormi pendant des siècles.
Oui. Oui, oui, c'est vraiment toujours le plaisir de la découverte, surtout si l'air est beau et intéressant, évidemment. Autrement, on essaie de le laisser dans un tiroir. Et parfois, on se demande pourquoi il n'a pas été enregistré ou interprété. Mais c'est vrai que le répertoire baroque recèle des trésors encore, je pense, pour quelques années, d'œuvres qui sont dans des bibliothèques ou dans des archives auxquelles on n'a pas forcément eu accès avant. Donc, c'est toujours très intéressant de faire ce travail de recherche. Mais ça prend beaucoup de temps. Le programme de disque, moi, j'ai travaillé pendant 2 ans dessus, hein, avant de pouvoir réunir ces airs.
Cinq premières mondiales, comme on dit, Nathalie Stutzmann. Bibliothèque, archives, vous avez fait comment? Tout est en numérique maintenant, ou on va vraiment dans les bibliothèques, on sort des partitions avec de la poussière,
hein? Alors, j'ai pas eu le temps d'aller sortir les sacs à Venise ou ailleurs. Mais on a évidemment un outil de recherche formidable avec Internet. Et puis, j'ai eu de l'aide. J'ai eu quelques personnes qui m'ont aidé à travailler sur les recherches. Et il faut passer beaucoup, beaucoup d'heures. Et se renseigner, c'est pas simple. Franchement, parfois on découvre le titre d'une œuvre et puis on n'arrive pas à trouver la partition. Donc voilà, il faut beaucoup de relations et de recherches.
Que ce soit ces premières mondiales, mais aussi des airs bien connus, on va en entendre d'ailleurs un dans quelques minutes. C'est plein de théâtre, hein. Enfin, c'est d'abord ça ici.
Oui, c'est d'abord ça, mais j'ai essayé aussi d'avoir un programme qui soit, comme toujours, le plus varié possible, mais aussi avec des œuvres pas forcément aussi intéressantes théâtralement, mais belles musicalement, avec des couleurs différentes, avec une orchestration différente, avec des harmonisations différentes, pour avoir toute une palette de ce que peut offrir la voix de contralto, qui est finalement très peu connue.
Sur le livret, à chaque air correspond un nom, la Dotti, la Negri, la Pierri, ce sont les chanteuses qui ont créé ces rôles. C'était un hommage aussi à ces chanteuses contralto, donc un peu dans l'ombre des castrats à l'époque.
Absolument. En fait, c'est vraiment le point de départ de l'idée du disque. C'est un hommage à toutes les contralto de cette époque qui sont restées clairement dans l'ombre des castrats, qui étaient les grandes vedettes de l'époque, bien que certains compositeurs leur préféraient certaines contralto. Donc ça m'a semblé intéressant d'abord de servir certains airs qui sont très connus et qui ont été récemment chantés énormément par des contre-ténors.
Amis.
Oui, voilà, et qui ont fait oublier qu'au départ c'était écrit pour une voix féminine. Et puis les inédits, et puis mettre un souvenir et puis une image sur ces femmes qui ont été formidables.
On rappelle contralto, le mot mezzo est plus récent. Ça correspond pas exactement à la même chose. C'est quoi une contralto?
La contralto, c'est vraiment la voix féminine la plus grave qui existe. Donc c'est pas du tout la même chose qu'un mezzo. C'est beaucoup plus grave, et en tessiture et en couleur.
Être actrice pour le micro, comme on vient de l'entendre, ça requiert quoi? Quelle qualité? Il faut exagérer parfois?
Il faut surtout beaucoup d'imagination, parce que c'est pas évident quand on est en studio de créer cette vie de la scène, ce qui nous manque, l'émotion, l'échange avec le public, avec les partenaires. On est tout seul devant son micro. Bon, là, j'ai la chance d'être avec mes musiciens, donc ils sont un petit peu mon auditoire et mes partenaires. Et puis il faut énormément d'énergie aussi, il faut se mobiliser, et quand on chante et qu'on dirige en même temps, il en faut encore le doux, parce qu'il faut gérer sa propre énergie pendant de longues heures devant un micro, mais également celle des musiciens.
On l'a pas dit, c'est à la fois des rôles féminins et masculins que chantaient ces contraltos.
Oui, absolument. Même si elles chantaient plus souvent les travestis, La couleur vraiment contralto était utilisée pour l'ambiguïté du travesti, mais il y avait aussi des rôles féminins.
Vous le disiez, certains airs, on a oublié qu'ils avaient été créés par des contraltos, parce qu'ils ont été tellement chantés par des contre-ténors. Vous-même, parfois, vous aviez oublié que c'était une contralto qui avait créé certains rôles.
Mais moi, je ne le savais pas, même. C'est pas que j'avais oublié, c'est que je ne le savais pas. À force d'entendre certaines choses, vous voyez, c'est comme les cantates de Vivaldi. Au début, quand j'ai chanté le Nisi Dominus ou le Stabat Mater, je pensais que ça avait été écrit pour des castrats de l'époque, et pas du tout. En fait, c'était écrit pour les voix féminines des jeunes filles qui étaient à l'Ospedale et de la Pietà, où Vivaldi travaillait.
Et notamment cet air fameux de Vivaldi. glacé dans toutes mes veines, je sens couler mon sang. Cette fois, je le dis en français. C'est cet air de Il Farnace de Vivaldi, interprété par Nathalie Stutzmann, notre invitée à la tête d'Orfeo 55, disque qui vient de paraître chez Erato. Magnifique disque, vous venez tous de vous en rendre compte. C'est un air qui vous tient particulièrement à cœur, celui-ci, Nathalie Stutzmann.
Oui, je pense que c'est un des très grands chefs-d'œuvre de Vivaldi et je rêvais depuis très longtemps. Je l'avais très peu chanté sur scène, donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir gravé.
Gravé il y a 2 ans, c'était à Arras. Quelques mois plus tard, vous annonciez la fin des activités de cet orchestre, Orfeo 55. C'est d'ailleurs écrit dans le livret pour des raisons de manque de moyens, de subventions, manque de temps aussi de votre part.
Manque de temps pour le sauver. Mais parce que pour sauver un orchestre indépendant, vous savez, c'est très compliqué, les ensembles indépendants. D'ailleurs, je pense que pendant la pandémie, l'orchestre aurait fini naturellement de toute manière. Donc c'est un peu sans regret de ce côté-là, c'est que je pense qu'on n'aurait jamais pu survivre à cela. Il faut en permanence aller voir des gens et
c'est
solliciter.
Un métier à plein temps.
Oui, c'est un métier à plein temps de chercher de l'argent pour soutenir l'orchestre, pour avoir une structure, pour faire un bureau. Parce qu'au début, on fait tout. Moi, j'ai fait tout moi-même au début. Coller les partitions, enfin, je veux dire, absolument les fabriquer presque à la main, parce qu'il y a rien. Et petit à petit, on peut pas tout. À un moment, il faut quand même de l'aide pour pouvoir avoir un bureau, avoir un secrétariat, avoir quelque chose qui roule. Et ça demande beaucoup d'argent. Il faut payer les gens, il faut payer les salaires. Et bon, on a été soutenu par le ministère de la Culture pendant 3 années. Et puis, ça ne suffisait pas malheureusement pour couvrir les frais. Vous savez, vous vendez des concerts en fait, et plus les concerts, moins vous avez d'aide des gouvernements, et plus vous coûtez cher, et moins vous avez de concerts. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, il faut de l'aide. Et on était arrivé à point de rupture, et c'est vrai que j'aurais sans doute peut-être pu essayer de tenter de sauver l'orchestre si je m'étais consacré à 100%, mais étant donné le développement de ma carrière de chef, c'était impossible de faire quelque chose bien avec ça.
Est-ce qu'il y a trop d'ensembles indépendants en France aujourd'hui ?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Et
moins d'argent.
Et forcément moins d'argent. Et forcément, on va avoir d'énormes différences entre certains qui bénéficient de plusieurs millions d'euros et d'autres qui bénéficient de quasiment rien.
Vous avez commencé comme ça, à diriger, à 40 ans, 35-40 ans. C'est difficile de commencer ou au contraire avoir déjà un nom, une réputation de grande chanteuse, ça a simplifié les choses. Vous avez quand même créé votre propre orchestre. Et, alors j'en ai moi un peu assez, même si les choses changent de parler, vous êtes femme, chef d'orchestre, mais souvent c'est un constat, et beaucoup de femmes qui créent leur propre orchestre pour pouvoir diriger.
Oui, moi en l'occurrence, je n'ai pas du tout créé Orfeo pour pouvoir diriger, j'ai créé Orfeo parce que je voulais chanter du répertoire baroque que finalement j'avais très peu chanté pendant ma carrière, où j'ai surtout chanté du répertoire romantique. Et puis diriger, j'ai toujours voulu diriger depuis l'adolescence, j'étais en classe de direction, donc c'était pas du tout une chose nouvelle qui m'a pris d'un coup en me disant tiens, si ça se trouve j'arriverai à diriger. Donc moi la direction, j'ai été chef dans ma tête et dans mon travail personnel toute ma vie. Simplement il fallait trouver le bon moment pour tenter l'aventure, et le bon moment c'est le moment où j'ai senti qu'effectivement il semblerait qu'il y ait une certaine égalité qui arrive et qu'une femme puisse faire une place sur un podium. Donc c'était une activité parallèle. C'est tombé à un moment clé de ma vie, de ma carrière, où j'avais l'impression d'avoir exploré beaucoup de choses en tant que chanteuse, d'avoir accompli beaucoup de rêves et de vouloir me renouveler au niveau du répertoire vocal. Et puis de vivre mon second rêve, qui était celui de la direction. Le fait d'avoir un nom, ça m'a aidé, je pense, dans certains, pour obtenir certains premiers concerts. Mais c'était toujours du chantage, c'est-à-dire on me prenait pas au sérieux. C'est une chanteuse, c'est une femme. Bon, alors tu peux diriger une symphonie, mais tu chantes la deuxième partie. Donc oui. J'ai eu beaucoup ça. J'ai été obligé de faire ça pour pouvoir prouver ce que j'étais capable de faire avec une baguette. Et parfois c'était un désavantage parce que voilà, mais devant certains orchestres symphoniques avec qui j'avais beaucoup chanté, pour eux j'étais cette femme en robe longue qui arrive et qui se met devant, et tout à coup je monte sur le podium et je les dirige. Donc c'était pas forcément toujours un avantage, hein. Ça m'a pas aidé. Ce qui m'a aidé, ce sont mes relations avec certains grands chefs qui comme Ozawa et Rattle ensuite m'ont aidé, m'ont soutenu parce qu'ils croyaient en mon talent, mais pas parce que j'étais chanteuse.
Il y a des plages sur ce disque où vous ne chantez pas, où vous dirigez uniquement. Comment vous avez choisi d'ailleurs ces
plages ? Alors j'ai choisi uniquement des extraits d'ouvrages où ces chanteuses auxquelles je rends hommage avaient chanté les rôles-titres ou à la création.
Tiens, voici Vivaldi encore. Le début de l'ouverture de L'Incoronazione di Dario de Vivaldi, l'Orfeo 55, l'ensemble de Nathalie Stutzmann qui le dirige sur ce disque Erato, contralto, un orchestre que vous allez diriger, c'est l'Orchestre de Philadelphie. Vous venez d'être nommé chef principal invité. Comment ça s'est fait ?
Ben écoutez, c'est l'orchestre qui a souhaité cette nomination, qui a souhaité d'abord travailler le plus souvent possible avec moi, et ça s'est transformé en poste de principal guest, sachant qu'à Philadelphie, c'est vraiment un choix de l'orchestre et de Yannick et de l'administration.
Yannick Nielsen, le directeur
musical.
Bien sûr,
c'est tout le monde, voilà. C'est une décision collégiale, mais c'est un orchestre qui n'a pas d'obligation d'avoir un principal guest, donc quand il nomme quelqu'un, c'est vraiment une volonté particulière. Donc ça m'a, c'est un rêve bien sûr qui devient réalité. C'est extraordinaire.
Un orchestre que vous avez écouté enfant.
Voilà, j'ai découvert cet orchestre par les disques avec Ormandy. J'ai entendu l'orchestre pour la première fois dirigé par Riccardo Muti qui à l'époque était le principal guest, donc occupait ma fonction actuelle avant d'être directeur musical. J'ai chanté pour la première fois avec cet orchestre sous la baguette de Simon Rattle, qui est devenu mon mentor en direction. Et le jour où Simon Rattle a décidé de devenir mon mentor, j'étais en train de chanter avec Yannick Nézet-Séguin. Donc c'est une belle histoire. Je les ai beaucoup dirigés. Je suis allé là-bas au moins 6 ou 7 fois dans un répertoire très varié. Et voilà, c'est à des très grands orchestres du monde, un des 20 meilleurs orchestres du monde certainement. Donc c'est un moment magique pour moi, vraiment.
Autre orchestre que vous allez diriger, autre point commun avec Yannick Nézet-Séguin, c'est le Metropolitan Opera de New York, dont il est aussi le directeur musical. Vous allez faire l'ouverture de la saison prochaine, donc la reprise après quasiment 2 ans d'arrêt au Met à New York. Iphigénie en tauride. J'imagine que c'est impressionnant d'aller en fosse après 2 ans d'arrêt comme ça dans cette maison.
Très impressionnant. Bon, on parle des répétitions, donc on est en train de justement hier, je parlais de planning, donc j'ai bon espoir vraiment que le Met sera ouvert en septembre. Pour moi, c'est aussi un événement magnifique puisque je n'ai jamais chanté au Metropolitan Opera.
Incroyable.
Oui, j'étais demandé plusieurs fois, j'étais pas libre. Après, bon, c'était un rôle. Et puis après, il y a eu les opéras baroques qui ont été chantés par des contre-ténors. Et finalement, de faire mes débuts en tant que chef, ben c'est magnifique. C'est aussi magique, non?
Et les orchestres français, donc il y a Orfeo 55, mais les orchestres français installés, c'est plus compliqué. On dirait que Nathalie Schussmann dirige plus en Scandinavie. Vous avez cet orchestre de Christian Zand en Norvège. Vous dirigez régulièrement aussi à Stockholm. Là, vous venez de diriger à Atlanta, un concert qui sera en ligne la semaine prochaine. Philadelphie, New York, le Met, c'est les orchestres français.
Et oui, comme tous les chefs français, peut-être.
À suivre, et l'appel est peut-être entendu à 8h55. Merci beaucoup, Nathalie Schussmann. On se quitte avec le dernier REL, le dernier R de Handel, Vado al Campo, là aussi c'est...
Oui, c'est assez musclé, mais oui, le dernier L pour contralto, c'est magnifique.
On ouvre nos ailes et on écoute Handel.
A combatter col pianto l'anziana, a combatter col pianto l'anziana del fier genitore. Vado, vado, a combatter col pianto l'anziana del fier genitore. L'anziana, a combatter col pianto l'anziana del fier genitore. L'irenzana da fier genitore. Tu qui resta da po' di frattanto, il tuo zelo d'un figlio fuori. Tu qui resti da po' di frattanto, il tuo zelo d'un figlio al fuori. Col pianto, col pianto, l'irenzana d'un fier genitore, l'irenzana d'un fier genitore. Vado al campo a combattere col pianto, l'irenzana, a combattere col pianto, l'irenzana d'un fier genitore. Vado al campo, vado.
Handel pour se quitter, Nathalie Schussmann et Orfeo 55, magnifique disque qui vient de paraître chez Erato.
À réécouter sur francemusique.fr.